20h-21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective, ceux qui ont marqué un avant et un après. Ce soir, notre jour J est le 9 janvier 2007. Steve Jobs, fondateur charismatique et tyrannique d'Apple, présente l'iPhone au monde entier. Une révolution technologique qui nous fait entrer dans l'ère du smartphone. Nous sommes le 9 janvier 2007. Dans la salle du Moscone Center à San Francisco, sur la côte ouest des États-Unis, Steve Jobs affiche sa satisfaction. Toute la presse s'est déplacée pour la convention Macworld, pendant laquelle, il le sait, il va faire une annonce qui va révolutionner la vie quotidienne de la planète. La rumeur court depuis quelque temps qu'Apple prépare le lancement d'un téléphone révolutionnaire pour concurrencer les leaders Motorola et Nokia. Mais personne ne peut imaginer la prouesse technologique qu'il s'apprête à dévoiler, l'iPhone. Si le patron jubile, les équipes d'ingénieurs de Steve Jobs n'emmènent pas large et ont des sueurs froides. L'iPhone de démonstration pour le lancement n'est qu'un prototype. Le premier appareil ne sortira officiellement que dans 5 mois. Et en réalité, personne n'est prêt. Figurez-vous que ce prototype ne fonctionne pas et enchaîne les bugs. Par exemple, ce matin encore, l'appareil de démo était incapable de lire un morceau de musique ou une vidéo en entier. Il ne captait pas plus le réseau téléphonique car l'antenne n'était pas au point. Alors, les ingénieurs ont été obligés de ruser, de truquer l'affichage sur l'écran et Steve Jobs doit effectuer les manipulations dans un ordre précis, sinon c'est le bug. On risque donc ce jour-là le drame et le lancement le plus catastrophique de l'histoire des nouvelles technologies. Dans son incontournable 3 pièces minimaliste, jean, col roulé noir, basket, qui a aussi fait sa renommée, Steve Jobs s'élance sur scène sous les applaudissements et les cris de l'assemblée. Première étape pour cet orateur hors pair, ringardiser les téléphones déjà existants. Le BlackBerry, le Palm Treo et le Nokia E62, tous dotés, souvenez-vous, d'un clavier. Aujourd'hui, nous introduisons 3 produits révolutionnaires, poursuit-il. Le premier est un iPod à large écran et commande tactile. Le second est un téléphone mobile révolutionnaire. Et le troisième est un terminal de communication Internet innovant. 3 choses, vous y êtes ? Ce ne sont pas 3 produits différents, c'est un seul et même produit. Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone, clame-t-il à la foule. Le public est galvanisé, mais les développeurs, eux, sont pétrifiés. Dans un instant, Steve Jobs va se prêter à l'exercice de la démonstration. Ça passe ou ça casse. Mais il semble en falloir plus pour impressionner le charismatique fondateur de la marque à la pomme qui jusqu'alors avait déjà sorti l'ordinateur et l'iPod. Ce que nous avons voulu faire, c'est nous débarrasser des boutons et juste avoir un écran géant. Et pour communiquer, on va utiliser un stylet ? Non, qui voudrait d'un stylet, dit-il. Nous allons utiliser le meilleur outil qu'il soit, le doigt. Nous avons inventé une nouvelle technologie appelée multitouch. C'est magique et nous l'avons breveté, poursuit Steve Jobs. Dans les coulisses, les équipes retiennent leur souffle. Le boss s'exécute, enchaîne les manips et la démo se déroule sans encombre. C'est un miracle. L'assemblée qui n'y voit que du feu est conquise. Les journalistes s'emballent. Le monde entier ne parle que de cela. L'iPhone est né. Et les ingénieurs peuvent enfin souffler. Steve Jobs est satisfait. Ils échapperont donc à une magistrale séance d'humiliation et d'insultes comme sait si bien les faire ce patron tyrannique. Portrait ce soir d'un génie visionnaire qui voulait changer le monde, d'un gourou des nouvelles technologies dont le goût du secret et la paranoïa cachaient une personnalité manipulatrice, illuminée et mégalo. Dans un instant, David Bruna et Antoine Dubuquois, auteurs du livre Steve Jobs, figure mythique aux éditions Les Belles Lettres, seront nos invités jusqu'à 21h. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci à vous d'être fidèle à Jour J, que vous suivez sur RTL en direct chaque soir entre 20h et 21h ou en podcast sur l'application mobile RTL. Tiens, à propos de mobile, peut-être nous écoutez-vous depuis votre smartphone, cet objet du quotidien désormais indispensable, je dirais même presque banal, prolongement de votre main qui vous assiste, qui vous rend la vie plus pratique, qui recèle d'ailleurs toute votre existence, parfois même la plus confidentielle, la plus secrète. L'iPhone est né le 9 janvier 2007 lors d'une conférence menée par Steve Jobs à San Francisco, vous venez de l'entendre, une véritable révolution à l'époque. C'est le 28 novembre 2007 que l'iPhone débarque en France, voici ce qu'en disait alors Robert Rochefort, directeur du Crédoc.
L'idée, c'est plus d'avoir le téléphone le plus performant du marché, du point de vue technique, on n'a pas besoin. Mais d'avoir vraiment le téléphone qui inaugure quelque chose de différent, qui est extraordinairement facile d'usage. Parce que c'est ça qu'il faut dire. C'est que c'est un téléphone, vous l'ouvrez, vous n'êtes pas envahi, il n'y a pas de touche. Je veux dire, ça se fait simplement par une logique sensorielle, avec des petites choses que vous bougez, des doigts que vous manipulez sur l'écran. Alors ça, effectivement, pour repérer les empreintes digitales, ça va être magique. Mais ça se fait tout comme ça.
Voilà, ce qui nous paraît aujourd'hui presque banal était à l'époque une véritable révolution. David Brunat, Antoine Dubuquois, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Vous êtes respectivement essayiste et consultant en stratégie digitale. Et vous êtes tous les deux les auteurs du livre Steve Jobs, figure mythique aux éditions Les Belles Lettres, que l'on peut voir sur l'écran si vous nous suivez sur RTL.fr. L'iPhone marque notre entrée dans l'ère de ce que l'on appelle donc le smartphone. Et vous avez eu la gentillesse, Antoine Dubuquois, de m'apporter le fameux iPhone de l'époque, de 2007. Il est tout petit rikiki, il est un peu plus lourd.
Oui, il est un petit peu plus lourd. Il a déjà toutes les caractéristiques en fait, qu'on va retrouver dans toutes les séries d'iPhone. Je crois qu'il y en a eu 33 depuis le lancement. Ah oui, effectivement, la numérotation.
Mais après, oui, c'est ça, parce que moi, je pensais qu'on en était au 13e.
Toutes les variantes, en fait, d'accord, en fonction des tailles d'écran, des capacités mémoire, etc. Mais il est déjà la coque en aluminium, l'écran multitouche, et puis cette extraordinaire facilité d'utilisation. Alors évidemment, il est 2G.
Ouais.
On sait même plus ce que c'est d'ailleurs
on
aujourd'hui.
On passe à la 5 là.
On passe à la 5. Il a un appareil photo mais avec une assez faible résolution. Mais déjà en fait les fondamentaux sont là. C'est un iPod et en fait c'est vraiment cette révolution du téléphone.
C'est quoi un smartphone en fait, David?
Smart en anglais ça veut dire qu'il est intelligent. Alors il est pas vraiment intelligent en tant que tel. Il rend intelligent son utilisateur. En tout cas, c'est la promesse de marque que fait Jobs. Si vous utilisez les produits Apple, vous serez plus intelligent, vous serez plus créatif, vous serez plus innovant. Voilà, ça peut marcher. Enfin, il suffit d'y croire. Il est smart aussi au sens français du terme, c'est-à-dire qu'il est élégant. Et c'est vrai qu'il est facile d'usage, il est intuitif, comme on dit, mais il a aussi une certaine forme de beauté formelle. On reviendra peut-être sur l'esthétique d'Apple. C'est pas un talkie-walkie. Il est agréable à utiliser. Il tient bien en main. Il est lisse. Il est doux. Il a de véritables qualités formelles. Jobs est à l'origine, d'ailleurs, en grande partie, même s'il n'était pas lui-même ingénieur, s'il maîtrisait pas la technologie en tant que telle, de ses caractéristiques esthétiques. Il a, sur l'écran tactile, qui à l'époque était tout petit, on le voit, il était d'ailleurs à titre personnel très opposé aux grands écrans qu'on trouve aujourd'hui. Il a harcelé la compagnie américaine qui fabriquait ces écrans et dont on pensait à l'époque qu'elle ne serait pas à même de le faire parce qu'il y avait des spécificités techniques extrêmement compliquées. Il les a harcelés, il les a barbés, etc. Il a réussi à faire en sorte qu'ils sortent cet écran tactile. Donc c'est un bel objet. Et depuis toujours, on y reviendra peut-être, Jobs s'est employé à créer de beaux objets qui rendent le monde meilleur à ses yeux et plus beau.
On reviendra
le
sur Steve Jobs, évidemment.
Le plus beau de tous étant Steve Jobs lui-même, naturellement, à ses propres yeux.
On l'aura bien compris, et donc cette émission lui est aussi évidemment consacrée, puisque Steve Jobs avait une personnalité extrêmement singulière, on l'a entendu il y a un instant dans l'introduction. Apple était déjà synonyme de révolution dans différents domaines, comme il aimait à le rappeler justement lors de cette conférence. On l'écoute.
Nous avons eu tellement de chance chez Apple. Nous avons eu des produits vraiment révolutionnaires. Le Mac en 1984 est une expérience que ceux d'entre nous qui étaient là n'oublieront jamais. Et je ne pense pas que le monde l'oubliera non plus. L'iPod en 2001 a tout changé dans la musique et nous allons recommencer avec l'iPhone en 2007. Nous sommes très excités.
Alors, c'est vrai qu'il est arrivé peut-être aussi, Antoine Dubuquois, au bon moment. C'est-à-dire, il a chopé la super idée au bon moment, il a trouvé la super idée marketing, on en reviendra. Sur une échelle technologique, elle est du 21e siècle. Ça, c'est la question super piège que l'on doit à Bastien Robin, qui est juste à côté de moi. Où est-ce qu'on place l'invention de l'iPhone? Est-ce que c'est la plus grosse révolution de ces 20 dernières années?
C'est une révolution, en fait, qui est très cohérente avec toute l'histoire d'Apple. Ouais. On reviendra sur l'histoire d'Apple, mais c'est vrai qu'il y a eu le Mac, Steve Jobs lance le Macintosh et dit voilà, on va révolutionner l'informatique, on révolutionne l'ordinateur. Après, avec le téléphone, il aura révolutionné le téléphone. L'iPod, c'est aussi on révolutionne la musique. Il y a ce côté très très fort chez lui, et qui raconte d'ailleurs extrêmement bien, c'est un formidable raconteur d'histoire, hein, qui a mis en scène sa propre légende, enfin son propre mythe d'ailleurs, créé le mythe de sa marque. Et effectivement, après, c'est pas forcément, effectivement, comme il est dit dans l'archive, c'est pas forcément le téléphone le plus révolutionnaire en sens technologique, mais en revanche, en termes de facilité d'utilisation, il met ce produit, finalement, il le donne au grand public pour dire, voilà, regardez, vous allez être effectivement plus intelligent, vous allez être...
Mais en fait, il réussit son truc à chaque fois. C'est-à-dire qu'il promet la révolution, Antoine, et en même temps, il l'a fait, cette révolution.
Alors, il l'a fait. Il promet la révolution. Après, il s'est planté, certains cas.
Dans quel cas ?
Par exemple, le Macintosh. Le Macintosh n'a pas marché. C'est une révolution dans la conception, dans le concept, mais les résultats commerciaux ont mis très très longtemps à arriver. Donc, c'est là tout le paradoxe, en fait, de Steve Jobs. C'est cette vision, cette capacité à anticiper les besoins des consommateurs, des utilisateurs, et avec lui-même ses propres obsessions. Et c'est là aussi la partie très compliquée du personnage, c'est qu'il a, par exemple, lorsqu'il a créé une série de, je ne sais plus quelle version d'ordinateur Apple, où il ne voulait pas qu'il y ait le ventilateur, parce que le ventilateur, ça faisait du bruit, c'était moche.
Donc c'était son obsession.
Voilà, c'était son obsession. Il s'est avéré que ça chauffait, que c'était une catastrophe. Il voulait qu'on puisse absolument rien rajouter. Par exemple, l'iPhone ne s'ouvre pas. Tous les smartphones s'ouvraient, tous les téléphones s'ouvraient. On pouvait démonter la batterie, la rebooter.
Là,
c'est un produit complètement scellé. Et ça, c'est aussi très, très révélateur de l'esprit de
Jobs.
Je comprends. Apple est une boîte très fermée. L'information est extrêmement secrète. Et voilà, donc...
Ouais, ces objets ressemblent finalement aux fondateurs d'Apple, on l'aura bien compris.
Ils sont à son image,
c'est à son image, exactement. Et à propos d'image, pardonnez-moi, David, je vous interromps, mais incroyable quand même qu'il ait maintenu la conférence de presse ce jour-là et l'annonce de l'iPhone quand il a un prototype qui ne fonctionne pas.
C'est un homme qui a du culot. Il l'a prouvé depuis...
Oui, mais ça aurait pu être une catastrophe.
Depuis sa jeunesse, ça aurait pu, mais ça ne l'a pas été. Parce que peut-être que la force de conviction... L'engagement des équipes et des techniciens qui sont autour de lui, qui ont des sueurs froides, mais enfin qui arrivent à faire comme si...
C'était pas la première fois.
Non, c'était pas la première fois.
C'est dingue.
C'est une constante dans l'histoire du lancement des produits, des grands messes, un évangélisateur, et puis des choses qui, cas à marche, on sait pas trop comment, et puis qui donnent des consignes après, et des mois sont nécessaires pour développer les produits et pour les rendre opérationnels. Ce qu'on peut dire sur l'iPhone aussi, c'est que c'est une révolution pour Apple, qui n'était pas un opérateur téléphonique, qui n'était pas un fabricant de terminaux.
Oui, il n'était pas fait pour faire du téléphone.
Et c'est une révolution qui est aussi largement d'origine française. Et je voudrais rendre hommage ce soir à un Français pas très connu du grand public, qui s'appelle Jean-Marie Hulot, avec deux L, et qui est un Français qui avait travaillé avec Jobs dans la Silicon Valley dans les années 80, et qui est le premier à susurrer à Steve Jobs cette idée de se lancer dans la téléphonie mobile.
Cocorico !
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui revient ce soir sur une saga, celle d'Apple et de l'iPhone, sorti en novembre 2007 en France. Voilà un objet de notre quotidien qui nous paraît presque banal, et pourtant cette sortie a été une véritable révolution. À la tête de la société à la pomme, qui aujourd'hui s'affiche sur bon nombre d'assistants informatiques de notre quotidien, eh bien il y a deux hommes, deux Steve Wozniak et Steve Jobs. David Bruna, Antoine Dubuquois, merci d'être nos invités jusqu'à 21h. D'ailleurs, Antoine, pourquoi est-ce qu'on parle plus de Steve Jobs que de Steve Wozniak ?
Steve Jobs, c'est la figure, l'incarnation de la marque. Il a su incarner la marque, et à la fois sa personnalité, son style vestimentaire, ses shows, enfin, c'était à la fois le télévangéliste, la rockstar. Enfin, ouais, quand on voit les vidéos, les présentations, il était excellent. Et même au niveau pour aller négocier auprès de fournisseurs de composants, pour tous les aspects commerciaux, voilà, Steve, avec son culot, avec sa faconde, arrive à faire ça. Wozniak, c'est le geek. C'est lui le vrai geek. C'est le génie informatique qui était chez Hewlett-Packard, qui est allé chez Apple, a suivi l'aventure, mais sans ambition particulière. Et l'opposition entre les deux, à la fois, c'est une complémentarité formidable.
C'est ça.
Mais d'un autre côté, il y en a un qui reste, Wozniak, qui est le geek typique, est prêt à tout donner, à tout offrir, à mettre tout quasiment logiciel libre, avec une vision très classique de l'informatique. Et Jobs, qui est, alors lui, complètement fermé, qui dit, attention, voilà, les ordinateurs doivent être fermés, notre système doit être fermé. Donc, et bon, l'attelage a fonctionné, mais c'est vrai qu'il y en avait un qui attirait la lumière et qui était...
Et voilà, l'autre qui préférait rester dans l'ombre, hein, de ce que je comprends.
Absolument dans l'ombre.
Il vient d'où, en fait, David Bruna, Steve Jobs?
Ah bah, il vient de la Silicon Valley. C'est un enfant de la Silicon Valley. Ouais. Il est né... à Palo Alto, il a vécu à Palo Alto, il est mort à Palo Alto, et entre-temps, il s'est passé un certain nombre de choses.
Enfant adopté.
C'est vraiment un gamin du coin. Ce qui est assez original, d'ailleurs, quand on voit les grandes stars des GAFA, de son époque et de l'époque postérieure, c'est souvent des gens qui viennent de la côte Est. Je pense par exemple à Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Bill Gates est originaire de Seattle. Lui, c'est un gars du coin. Et il tombe dans la marmite de la tech, de la Silicon Valley, c'est-à-dire du silicium. Un peu par hasard, enfin, il est né là. C'est un enfant adopté.
Voilà, enfant adopté. Sa mère, en fait, voulait qu'il fasse des études.
Sa mère voulait qu'il fasse des études.
Sa mère adoptive,
en fait. En fait, ouais. ses parents biologiques, en fait, ont souhaité qu'il soit adopté par une famille qui lui donne des chances.
Exactement.
Qui donne sa chance. Et la première famille, en fait, qui s'était portée volontaire.
Finalement, voulait une fille.
Voilà, voulait une fille. Et donc, la famille Jobs l'adopte et effectivement en moyennant la promesse en fait qu'ils vont vraiment investir pour lui garantir des études.
Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, et il faut leur rendre cet hommage, Steve Jobs leur doit beaucoup. C'est une famille aimante qui va se saigner aux quatre veines. C'est des gens assez modestes, hein, qui vont vraiment se serrer la ceinture pour lui permettre de faire des études. Pas très longtemps, puisqu'il
a quitté
l'université. Très vite, il fait un ou deux trimestres dans l'Oregon, dans une université qui s'appelle Reed, où en fait, il n'en fout pas une. Ça ne l'intéresse pas. Il décrète que ce n'est pas intéressant, qu'il a mieux à faire. Il fait des longues marches. Il va chez Hare Krishna et il étudie la calligraphie. Alors ça, c'est bien connu.
Puisqu'il dira plus tard,
à quel point ça a été formateur dans sa formation et dans la saga des produits Apple.
Je voudrais ajouter que dans son éducation, en fait, c'est aussi en pleine période hippie. C'est-à-dire que Steve Jobs est un hippie, il est crasseux, LSD. Il ne se lave pas, il prend du LSD, enfin vraiment, il fait tout le trip. Je crois qu'il même, il part à un moment quelque part en Inde, il revient, ses parents ne le reconnaissent pas tellement.
Il est dans un ashram.
Enfin, vraiment, c'est tout le trip des années, la fin des années 60, début des années 70.
C'est vrai l'histoire du garage?
C'est la légende. Non, ça, c'est le mythe de la Silicon Valley. C'est vrai que c'est.
D'accord. On est dans un garage, on crée des ordinateurs.
Ce qui est vrai, c'est que le père de Jobs a fait un garage dans lequel ils ont bidouillé.
D'accord.
Mais il n'est pas exact que la saga Apple a éclos dans ce garage.
D'accord.
Donc le garage, en fait, c'est consubstantiel à la maison américaine de ces banlieues. Il y a des groupes de rock qui sont nés dans des garages. Donc effectivement, il y a des geeks qui ont bricolé des ordinateurs. C'est un classique.
Voilà, donc c'est un classique. Est-ce qu'ils connaissaient déjà Wozniak?
Oui, ils se connaissent. Ils ont bidouillé ensemble un système qui permettait de téléphoner gratuitement.
D'accord, ok. Donc ils étaient déjà dans cette idée de la communication.
C'est les geeks, ils appartenaient au Computer Club. Donc, vous voyez, c'est un petit peu les mecs à lunettes qui sont un petit peu les exclus dans les classes. C'est pas le gabarit footballeur américain, c'est un peu aux antipodes. C'est ceux qui sont planqués derrière leur ordinateur, qui restent chez eux, effectivement, qui passent beaucoup de temps dans le garage.
Bon, alors, ils sont sortis du garage un jour, ils ont créé Apple. On va se retrouver dans un instant pour vous raconter l'histoire d'Apple, cette marque qui est partout autour de vous, et justement, qui est née peut-être dans un garage, mais qui ensuite, effectivement, a une très très longue renommée. À tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J se poursuit, vous venez de l'entendre, jusqu'à 21h. Et ce soir, grâce à nos invités, nous revenons sur la révolution iPhone qui a démarré en 2007 après celle de l'iMac et de l'iPod. David Bruna, Antoine Dubuquois, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes les auteurs du livre Steve Jobs, figure mythique. On y reviendra justement, ce personnage qui a construit sa légende aux éditions Les Belles Lettres. Alors déjà, moi j'ai plusieurs questions à vous poser. À qui on doit, Antoine, le nom d'Apple? Parce qu'Apple veut dire pomme.
Alors, c'est à Steve Jobs qu'on le doit, c'est un peu le hasard. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un nom qui soit simple à retenir.
Ouais.
Et surtout, en fait, qui permette, à l'époque très ancienne, des annuaires papier. d'apparaître très très haut en fait dans le classement des entreprises.
Que nous avons connu. Non mais attends, c'est super intelligent.
Ah oui, c'est ultra basique. Et après, effectivement, c'est...
Ça en dit long.
Alors
déjà.
Après, il y a une autre partie de la légende.
Il était chez Atari à l'époque.
Qui dit qu'il mangeait des... Ouais, d'accord.
Et
okay.
Apple, c'est avant Atari.
Ah, génial. Parce qu'on dit qu'en fait, il mangeait des pommes aussi.
Ah, il mangeait beaucoup de pommes.
Genre
il mangeait beaucoup
Chirac,
de pommes, il
d'accord.
était végétarien,
mangeait des pommes,
etc.
Quoi. Oui.
Mais en fait, il a aussi travaillé, je crois que c'était un job d'été, dans une plantation où il y avait des pommiers. Donc ça a pu être aussi l'importance.
Une cidreraie, etc. Et puis c'est aussi un fruit à haute teneur symbolique, la pomme. On ne la fait pas depuis Adam et Ève jusqu'à, qui d'ailleurs n'est pas une pomme, est
donc
un fruit, mais enfin peu
comment,
importe, jusqu'à la pomme de Turing. C'est évidemment un fruit très évocateur.
Pourquoi le iPhone, iPad, iMac, iMachin, iBidule, ça veut dire quoi?
Eh bien, on ne sait pas.
Ah,
on ne sait pas.
Joker.
Toutes les interprétations sont possibles. Ça sonnait bien, ça résonnait bien, c'est une belle tonalité. Ouais. Ça peut être i comme innovation, ça peut être AI comme intelligence, ça peut être AI comme intuition, ça peut être...
D'accord.
Ça n'a jamais été vraiment révélé.
AI comme, comme jeu, qui est aussi l'appropriation du produit. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, effectivement, David le mentionnait, Steve Wozniak, quand il sort sa biographie, il l'appelle I Was. Sûrement, c'était Was.
Oui, oui, c'est ça.
Voilà, donc,
le AI est partout.
Et le Macintosh, d'ailleurs, c'est une espèce de pomme, hein.
Oui, tout à fait.
C'est une pomme, donc il y a bien cette
une
filiation fruitière.
Racontez-nous la naissance d'Apple. Alors, qui s'y colle? Antoine.
Alors les deux geeks, effectivement, à force de bricoler, effectivement, cherchent un moyen de développer leur société. Donc ils trouvent, après moult discussions, rencontres, un financier qui est prêt à leur avancer. Alors je crois que ça va être le premier million de dollars. Mike Markula, je crois.
Les deux jeunes y vont, là.
Les deux jeunes y vont. Quelqu'un leur fait confiance. Il met l'argent et ils commencent à...
Et ça démarre tout de suite?
Alors, ils ont réussi à placer, en fait, leurs premiers ordinateurs chez un distributeur local.
$500.
Voilà, c'était une machine tout à fait bricolée, l'Apple 1. Et puis, progressivement, en fait, ils décident d'améliorer le produit. Et ce côté, ce que Jobs formalisera dans le discours de Stanford avec la fameuse phrase qui n'est pas de lui, mais stay hungry, stay foolish. Mais c'est cette fin d'innovation, cette fin d'amélioration des produits en permanence.
Pourquoi est-ce que Steve Jobs est écarté d'Apple en 1985?
Alors, il est écarté plus tard, il a une trentaine d'années, à peu près, à l'époque. Donc là, c'est une société qui est déjà relativement mature, qui a été cotée en bourse l'année d'avant, qui est resplendissante, qui est une des stars de Wall Street, et qui accueille dans son management des types très chevronnés, dont l'ancien patron de Pepsi-Cola, que Steve, malgré son jeune âge, a su débaucher avec une promesse d'avenir, une promesse de marque, et en lui vendant l'idée, en disant « Est-ce que tu veux vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou est-ce que tu veux changer le monde ?» On voit bien
l'état d'esprit.
Le côté un peu bonimenteur, et en même temps, cette force de conviction à nul autre pareil. En 1985, Jobs est un homme qui est encore très, très jeune, il a la trentaine, il est né en 1955, et c'est devenu, si on peut dire, une sorte de petit con, incontrôlable. On serait à moins, vu la
réussite,
le succès absolument phénoménal de l'entreprise qu'il a co-créé. Et c'est pas un manager hors pair. Donc, il est vite débarqué par le conseil d'administration pour incurie, pour immaturité, pour tempérament incontrôlable. Et il dira d'ailleurs plus tard, dans le fameux discours de Stanford auquel Antoine faisait référence, que c'est une des meilleures choses qui lui soit arrivée. Il était trop jeune pour accéder à ce niveau de responsabilité. Il a appris.
Alors,
ça lui a été, en définitive, très profitable.
Donc, entre-temps, il a fondé la société Next. Et ensuite, il tient sa revanche 12 ans plus tard. Il redébarque dans Apple.
Il redébarque dans Apple. En fait, on refait appel à lui parce que Apple va très mal. Les gammes de produits sont démultipliées. C'est devenu n'importe quoi, en fait. Alors, c'est déjà un petit peu n'importe quoi lorsqu'il est parti. Mais là, ça a empiré et ça ne vend plus. Il n'y a pas de génie créatif. Il n'y a pas de nouveaux produits.
Donc, Apple ne peut pas exister, en fait, sans Steve Jobs.
Voilà. Et donc, en fait, ils le font revenir et il arrive. Il demande quasiment le dollar symbolique. Enfin, voilà. Mais entre-temps, effectivement, Next n'a pas bien marché. Mais je crois qu'il a racheté Pixar entre-temps. Il a déjà commencé à constituer sa fortune. C'est un mec établi. Et là, tout à coup, il arrive, il arrête la plupart des gammes de produits. il épure la société et il commence en fait à réinjecter en fait son génie créatif et ça se concrétise.
Et c'est là que ça démarre et c'est là vraiment que ça explose, très fort. En fait. Quoi.
C'est là en fait qu'il revient à son concept, la beauté du produit. Il fait venir John Ive, qui est son designer, son nouvel alter ego finalement. Woz est un peu disparu du paysage, mais vraiment c'est voilà, John Ive introduit le design avec, on le voit avec l'iMac, tout à coup des ordinateurs sont en couleur, enfin c'est des produits, c'est du jamais vu.
Voilà, c'est pas le genre de truc qu'on planque, quoi. Hein, c'est presque quelque chose qu'on montre.
Qu'on exhibe avec fierté.
Exactement.
Et en plus, ça marche bien.
Le génie du marketing, la personnalité complexe aussi, hein, parce que là, on l'entend à travers vos mots. Steve Jobs était quelqu'un d'extrêmement singulier. Moi, en préparant cette émission, j'ai découvert un personnage que j'aurais craint dans la vraie vie. Hein, vraiment.
Vous n'auriez pas été la seule, Flavie.
Nombreux
sont ceux qui l'ont côtoyé.
Exactement.
Dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée, qui ne s'en sont pas remis.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Georgie vous invite chaque soir dans les événements qui ont marqué l'actualité de notre monde. Et si l'on se sert tous les jours de nos smartphones sans s'en émouvoir, il ne faut pas oublier que comme beaucoup d'objets de notre quotidien, l'iPhone a représenté en 2007 une véritable révolution technologique. On la doit à un homme charismatique et complexe. On va y revenir dans un instant, Steve Jobs. Lors de sa conférence de lancement de l'iPhone, justement, il explique sa philosophie. Écoutez-le.
Vous savez, il y a une vieille citation de Wayne Gretzky que j'adore. Je patine vers l'endroit où le palais va être et non vers là où il a été. Et nous avons toujours essayé de l'appliquer chez Apple, depuis le tout début, et nous le ferons toujours. Alors merci beaucoup de faire partie de cette aventure.
Alors, David Bruna, Antoine Dubuquois, Steve Jobs, on l'a dit, il avait un flair imparable, c'était un visionnaire. On a aussi beaucoup vanté son goût du minimalisme jusqu'à son look, qui se retrouve dans les produits Apple, le truc le plus simple possible. Et alors justement, là, on l'entend, c'est un orateur, Antoine. C'est presque un gourou aussi, Steve Jobs.
C'est un gourou, c'est-à-dire on pourrait presque considérer en fait, qu'il a créé une espèce de religion, allez, c'est une, il y a les Apple maniaques, il y a effectivement ceux qui suivent les conférences, qui suivent ça comme un show, comme un concert de rock, qui vont dans les églises qui sont aujourd'hui les Apple Store, qui voient tous les objets du culte. Enfin, il y a tout un côté.
Vous me disiez que le téléphone que j'ai dans la main, le premier iPhone, vous me dites, c'est une relique en fait.
Oui, c'est une relique sacrée. En plus, il marche encore, c'est incroyable.
Ouais.
Non, ce qui est assez fou, c'est qu'il a cette capacité de conviction et il a un public. Quand on regarde les vidéos des conférences, des présentations, des keynotes de Jobs, la foule est en délire, ils poussent des cris.
Comment est-ce qu'on explique ça?
Ça ne s'explique pas. C'est le charisme qu'on peut retrouver aussi chez les grands dictateurs, chez les grands patrons. C'est ce magnétisme, en fait, cette capacité d'un individu en fait à faire passer. Il maîtrise en fait les lois de la rhétorique, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, il est l'incarnation de sa marque et tout est étudié.
Voilà, c'est qu'on va au-delà.
Et d'ailleurs, il a influencé la plupart des patrons de la tech, puisque la plupart des présentations technologiques, quelles que soient les marques, finalement, le style jean, New Balance et
puis la col roulée,
finalement, tenue noire, c'est devenu presque mainstream. C'était
souvent
le passage
copié,
obligé.
Jamais égalé.
Voilà, souvent copié, jamais égalé.
Exactement.
Mais ce qui est intéressant, en fait, aussi, David Bruna, c'est qu'on a le sentiment que Steve Jobs vend, évidemment, toutes les créations d'Apple, toutes les innovations, les révolutions, comme il le disait, d'Apple, mais il se vend lui-même aussi. Alors, est-ce qu'il a compris qu'à un moment donné, en fait, le succès de sa boîte passait par son propre succès?
Vendre les produits Apple et se vendre, c'est finalement tout un.
Voilà,
et
c'est la même chose.
Il incarne la marque, comme le disait. Il la représente, il la sublime, il est la marque. Et c'est vrai que sa disparition va entraîner un certain nombre de questionnements sur la pérennité des valeurs de marque. C'est un homme qui a un charisme fou, on l'a dit, mais c'est un homme qui fait rêver. Et c'est pour ça qu'en dépit de son tempérament détestable, et ceux qui ont travaillé à ses côtés peuvent en témoigner, il a suscité un coefficient de sympathie à nul autre pareil.
Mais pour ceux qui ne le connaissaient pas.
Voilà.
Mais aussi pour ceux qui le connaissaient.
Ouais.
Parce que, en définitive, il a pas provoqué beaucoup de burn-out. Il a provoqué des licenciements en cascade. Les gens, enfin, ça valsait. C'est vraiment quelqu'un qui n'était pas sensible au bien-être de ses collaborateurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup du management d'empathie, de bienveillance,
etc. Là, pour
etc.
ça, il n'était pas révolutionnaire
c'est
du tout.
C'est le cadet de ses soucis.
D'accord, donc il s'en fout, il faut être productif. Voilà.
Il s'en fout. Ce qui compte, c'est le rayonnement de la marque, c'est son propre destin, rien d'autre. Et ça marche, et les gens le suivent parce qu'il a ce je ne sais quoi qui fait qu'on se défonce pour lui.
Qu'est-ce qu'en disaient ses collaborateurs ? Et ses proches d'ailleurs aussi, bah, Antoine.
Ce qu'on sait surtout en fait, c'est que lui, dans sa vision du monde, il y avait en gros deux catégories de personnes. C'est-à-dire qu'en gros, les génies et ce qu'il appelait les bozos.
On pourrait dire les connards.
Donc un jour, vous pouviez être considéré dans la catégorie génie et le lendemain, la roche tapéienne proche du Capitole, être le bozo absolu. Et on raconte, alors ça, je ne sais pas si c'est une anecdote qui est apocryphe, mais en tout cas que certains collaborateurs d'Apple hésitaient quand ils croisaient Steve Jobs à l'heure du déjeuner, déjeuner avec lui parce que ça pouvait être immédiatement un cauchemar. Voilà. Donc c'est un type
on pouvait passer de l'estime finalement au mépris, quoi, voilà. Hein, sans savoir pourquoi.
Et un point qui est aussi assez important, c'est si on prend par exemple Bill Gates. Bill Gates a créé, comme beaucoup de milliardaires américains, une fondation. S'est lancé dans des opérations philanthropiques. C'était pas du tout la vision du monde de Jobs. Et aujourd'hui, il semblerait que sa femme, Lauren Powell, se soit un petit peu lancée dans le caritatif.
Beaucoup.
Peut-être. Est-ce pour compenser en fait les manques en fait de Steve Jobs. Voilà. Mais lui, effectivement, avait zéro empathie pour le reste du monde.
Racontez-nous l'histoire de sa fille. David Brunin.
Alors l'histoire de sa fille, il en a eu plusieurs.
Cette fille qu'il n'a jamais reconnue.
Avec sa deuxième femme, qui est aujourd'hui Lorraine Jobs, qui est aujourd'hui une philanthrope très généreuse, qui investit beaucoup dans le monde éducatif notamment. Mais il a eu un amour de jeunesse avec Chris Brennan et avec cette jeune femme, qui a écrit d'ailleurs un livre il y a quelques années à son sujet, où vraiment elle se lâche. Sur ce malotru, ce goujat, enfin,
et qui néanmoins était son père
à ses yeux à l'époque. Et donc il a eu une fille qui s'appelle Lisa, qu'ils ont appelée Lisa, et qu'il a tardé à reconnaître, dont il s'est finalement très mal occupé dans son jeune âge. Le temps passant, il s'est un peu réconcilié avec elle quand elle était adolescente. Elle est venue vivre chez lui et puis leurs relations se sont à peu près raccommodées. Toujours est-il que c'était très compliqué. C'était lui-même un enfant adoptif qui avait un problème d'identité. Enfin, je ne suis pas psychanalyste, mais on pourrait
l'expliquer comme ça.
Sur les failles natives de Jobs. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il a créé au début des années 80 un ordinateur qui s'appelait le Lisa. C'était un acronyme pour dire autre chose que Lisa, mais enfin, ça donnait la même chose que le prénom de sa fille. Donc, vous imaginez les gloses de psychanalyste auxquelles ça a pu donner lieu.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, et Steve Jobs, dont nous parlons depuis 20 heures à travers justement le lancement de l'iPhone en 2007, est mort le 6 octobre 2011 d'un cancer du pancréas. Antoine Dubuquois, est-ce que cette maladie aussi a contribué, je dirais, à sa légende ?
Oui, complètement. C'est à la fois la mort de l'incarnation de la marque, donc c'est avec des interrogations sur ce qu'on
est.
Ça a été pleuré, ça a été tweeté de façon absolument phénoménale, pas au niveau de Michael Jackson, mais presque. Ce qui est intéressant, c'est que il aurait pu peut-être sauvé. Il a refusé d'être opéré.
Oui, de cette maladie.
Voilà.
D'accord.
On n'ouvrait pas plus Steve Jobs qu'on ouvrait ses appareils.
Ses appareils. C'est-à-dire qu'il a refusé une intervention chirurgicale qui aurait pu lui donner en tout cas une plus longue espérance de vie, dit-on. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas pénétrer Apple, on ne peut pas pénétrer un iPhone et donc on ne rentrait pas dans le corps de Steve Jobs.
Voilà,
c'est
le corps sacré de Steve Jobs.
Oui, ça j'entends bien.
Non, mais quelque chose de très religieux là-dedans.
Voilà, oui, c'est ça. C'est qu'il y avait quelque chose. On reste. Fermé, quoi.
Voilà, totalement fermé.
Très bien. Donc, est-ce qu'on s'est effectivement inquiété, David Brunin, pour la suite d'Apple à la mort de Steve Jobs ? Est-ce qu'il avait tout prévu, puisqu'il savait qu'il était malade, est-ce qu'il avait tout prévu pour... Parce qu'il est resté malade quand même 7 ans, quoi.
Il était très affaibli. Il savait que sa durée de vie était limitée. Il est mort à 55 ans, à peu près. Donc, c'est un âge jeune. Il va de soi qui voulait que la marque lui survive. C'était son œuvre, c'était son destin, c'était sa légende, c'était sa saga, c'était son histoire. Il ne voulait pas que ça s'arrête avec lui, bien évidemment. Et il a fait appel, des années avant sa disparition, à un certain nombre de collaborateurs proches qui sont restés, qui lui étaient très attachés, avec lesquels il arrivait à travailler, parce qu'on décrit aussi un personnage très tyrannique, mais il savait aussi créer des fidélités, des sympathies. Mmh. Hein, c'est pas, je veux dire, Jobs, c'est pas Staline, c'est pas quelqu'un qui purgeait les gens au sens, je dirais, le plus sanguinaire du terme. Bon, et des gens comme Tim Cook, Tim Cook qui est aujourd'hui et de longue date le CEO d'Apple, il l'a mis en scène à l'époque, il s'occupait de la chaîne logistique, c'est un excellent gestionnaire, c'est pas un visionnaire Tim Cook, mais il se prend pas pour ce qu'il est pas. Hein, d'ailleurs, et c'est un excellent gérant, j'allais dire, de la marque, du groupe. Il a fait monter des gens comme John Ive sur la fonction design, qui était et qui demeure très très importante pour Apple. Pour autant, c'est vrai que quand il est mort, on s'est dit, ça va peut-être s'arrêter, parce que sans lui, ce sera plus pareil. Et de fait, depuis sa disparition,
c'est
quand même plus pareil. Il y a eu des nouveaux produits, il y a eu l'Apple Watch, il y a eu des trucs comme ça, mais c'est quand même une marque qui, aussi florissante soit-elle, c'est quand même un peu banalisée, un peu routinisée, si on peut dire, qui n'a plus cette espèce de grain de folie qu'elle pouvait avoir avec lui.
Mais est-ce qu'on peut s'attendre quand même à des belles surprises de la part d'Apple, Antoine Dubuquoy?
Disons qu'il y a une évolution des produits. C'est une marque en fait, qui a changé de registre. Aujourd'hui, c'est une marque qui est plus une marque de luxe, qui a repris vraiment tous les codes de l'univers du luxe. Ça marche très bien. C'est-à-dire qu'en termes de valorisation, je crois qu'aujourd'hui, elle est valorisée à 2500 milliards de dollars. Donc voilà, ça, c'est l'œuvre de Tim Cook.
C'est vrai que c'est hors de prix. Oui. Enfin, je veux dire, s'offrir un produit Apple aujourd'hui, c'est...
La marque a quitté le monde des geeks pour...
Le prix la qualité reste, voilà.
C'est une marque statutaire.
C'est ça.
On sait que c'est des produits de qualité, on sait que c'est des produits technologiques, des produits qu'il faut renouveler régulièrement parce qu'il va y avoir une évolution. Il n'y a pas de révolution. Et je crois que c'est là le point de rupture d'un point de vue... Business, ça marche du feu de Dieu. En revanche, il manque peut-être un Steve Jobs avec ce génie créatif en fait pour provoquer des révolutions et inventer des nouveaux produits.
Je vais vous rendre votre relique.
Merci.
Qui est donc ce premier iPhone qui date de 2007. Ça me rappelle quelques souvenirs. Je me demande si j'en ai pas un, ça a de la valeur encore, ces trucs-là, ou pas?
Ça, je ne sais pas du tout.
Mais je ne sais pas, en fait. On dit qu'il y a certains téléphones qui...
Peut-être.
Bon, je vous le garde. Allez. Merci à vous, en tout cas, David Bruna, Antoine Dubuquoy, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle votre livre, Steve Jobs, figure mythique, aux éditions Les Belles Lettres.
Merci
à vous.
Merci
à bientôt.
Beaucoup.